C'est en fait une continuité qui illustre les problèmes croissants internes à l'équipe de Loukachenko qui ont commencé déjà vers 2004-2005 où on a vu toute une série de purges, y compris dans les organes de répression ou les forces de l'ordre, suivant la position où on se place. Donc non seulement dans le KGB, dans la police, mais aussi dans l'armée. On a vu aussi toute une série de mises à pied dans les entreprises étatiques, dans des agences dépendantes du gouvernement. Donc on a un peu le sentiment que Loukachenko est en train de réorganiser sa garde rapprochée et que comme on est dans un petit pays avec une petite équipe, on a une rotation du personnel. Il faut rappeler aussi qu'à une certaine époque, en 2001, si je ne m'abuse, oui, une partie de l'opposition était déjà des personnes qui avaient fait partie de l'équipe de Loukachenko. Donc c'est un problème récurrent.
Est-ce que Loukachenko agit de la sorte car il se sent menacé ou bien cherche-t-il toujours à, on va dire, à éliminer le plus tôt possible toute personne qui pourrait prendre un petit peu plus d'importance au sein de l'appareil étatique?
Je crois que le problème de Loukachenko, c'est un problème classique de ce genre de dirigeant, donc il se sent toujours menacé. Et avec le temps, ça fait quand même maintenant 12 ans qu'il est au pouvoir, avec une dérive très très claire de se méfier de tout le monde, de voir des opposants dans tous les gens qui ne marchent pas droit sur le couteau du pantalon, on a cette tendance aux purges et on se demande combien de temps ça va pouvoir durer avant qu'il y ait une révolte à l'intérieur de l'appareil du parti.
Les problèmes qu'il a également vis-à-vis de l'approvisionnement énergétique, est-ce que ce n'est pas aussi le signe que même le soutien russe dont il dispose plus ou moins est en train lui aussi de se liquéfier?
C'est-à-dire que les Russes ont toujours eu une attitude ambiguë envers le président Loukachenko. Il faut quand même se rappeler que le pic de grands amours, si je puis dire, remonte à 1996. Ça fait quand même très longtemps. Donc c'est à l'époque où a été lancée cette fameuse idée d'une union entre la Russie et la Biélorussie. Lorsqu'il a pris le pouvoir en 2000, Poutine n'a jamais été un grand fanatique de cette union entre la Russie et la Biélorussie. Et d'ailleurs, on voit qu'il a freiné constamment tout ce qui pouvait être des progrès. Donc, ça a aussi induit une espèce d'exaspération en Biélorussie. Mais en même temps, ils savent qu'ils sont terriblement dépendants des Russes, notamment pour l'énergie. D'un autre côté, ils ont une liberté de manœuvre dans les négociations que peu de pays ont, c'est-à-dire que la Biélorussie représente encore aujourd'hui une importance stratégique double pour la Russie. D'abord parce que c'est un pays de transit pour quand même 20% de l'énergie qui va en direction de l'Union européenne. Et puis aussi parce qu'il y a des accords militaires. Donc la Biélorussie est vue comme une espèce de dernier rempart avant, dans l'avancée de l'OTAN en Europe centrale. Donc il y a des accords militaires, notamment l'utilisation de bases et d'installations par les forces russes qui sont importantes pour la Russie. Donc il y a un rapport de force qui n'est pas aussi inégal qu'on ne l'imaginerait, en tout cas, je répète, pour l'instant.
L'opposition biélorusse peut parvenir à faire évoluer le régime de l'intérieur.
Mais je crois que malheureusement, la vraie opposition viendra de l'intérieur, donc ça veut dire de l'entourage déçu du président, parce que le problème de l'opposition, c'est qu'elle est extrêmement fragmentée. Et donc, c'est pour ça que je crois que la vraie succession va se faire autour de lui, par des personnes qui sont en faveur de casser cette espèce d'image négative de la Biélorussie, avoir un rapprochement avec l'Ouest, garder une balance entre la Russie et l'Occident.